Bonjour et bienvenue sur Campus Max, sur Radio Campus Po, 98.8 sur vos radios. Nous nous retrouvons ce mercredi 10 janvier avec Hélène.
Salut.
Et moi-même Benoît, au programme aujourd'hui, un tour de l'actualité internationale et locale.
Nous allons commencer par faire un tour rapide des actualités internationales. L'Allemagne, le pays le plus pollueur d'Europe, a mis fin à sa politique d'aide à l'achat de voitures électriques ou hybrides, entraînant une chute de celles-ci sur le marché. En Europe, l'abandon de la production de voitures à moteur thermique est prévu pour 2035. Pour appuyer les objectifs que la Commission européenne a mis en place, il faudrait une transition efficace. C'est pourquoi des dispositifs d'aide avaient été mis en place pour le changement. Cependant, nous pouvons constater que l'Allemagne fait un retour en arrière. Le pays a supprimé le bonus gouvernemental sur les voitures hybrides fin 2022, puis le bonus sur les voitures électriques en septembre 2023. En décembre, le gouvernement a mis fin à son programme d'aide à l'achat pour les particuliers souhaitant acquérir un véhicule électrique. Cette décision est un cas d'urgence pour limiter les dépenses de l'État de ce pays particulièrement touché par la crise suite à la guerre en Ukraine. Pourtant, le marché de l'automobile perdure, mais ce sont des voitures diesel qui ont la cote en Allemagne. En effet, il y a eu une hausse significative de ventes de voitures diesel et aussi, à moindre part, des voitures à essence. Quelques semaines après l'accord de la COP28 appelant à une transition hors des énergies fossiles, la situation en Allemagne inquiète. L'objectif gouvernemental sur l'électromobilité en Allemagne en est alors complètement compromis, voire totalement illusoire.
Se donner du temps, la NASA a annoncé ce mardi le report de ses missions vers la Lune. Nous ajusterons notre calendrier, a déclaré le patron de la NASA, Bill Nelson, lors d'une conférence de presse. La sécurité est notre priorité, a-t-il poursuivi, indiquant que ses équipes avaient besoin davantage de temps. Prévue pour fin 2024, la mission Artemis 2, lors de laquelle un équipage doit faire le tour de la Lune sans y atterrir, aura finalement lieu en septembre 2025. Artemis 3, qui doit renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la fin d'Apollo en 1972, est, elle, décalée de fin 2025 à septembre 2026. Le programme a pour but d'établir une présence durable sur la Lune afin de préparer le voyage d'un premier équipage vers Mars, inauguré en 2022 avec la mission Artemis 1. Il a fait voler avec succès le vaisseau Orion autour de la Lune afin de le tester sans équipage. La prochaine étape doit durer environ 10 jours et envoyer 4 astronautes, 3 Américains et un Canadien, pour un voyage autour de la Lune sans y atterrir. Mais un rapport du bureau de l'inspecteur général de la NASA, publié en novembre, pointait du doigt plusieurs problèmes devant être pris en compte avant le décollage de cette mission. D'abord, durant Artemis 1, le bouclier thermique protégeant la capsule Orion lors de son retour dans l'atmosphère terrestre avait été altéré d'une façon inattendue. Selon le rapport, de plus, la plateforme utilisée pour transporter l'immense fusée LLS avait subi davantage de dommages que prévu. Artemis 3 devait être ensuite la première mission à déposer des astronautes sur la surface lunaire depuis plus de 50 ans. Seul problème, deux composantes essentielles ne sont pas encore prêtes. D'abord un alunisseur commandé de la compagnie spatiale SpaceX. Ce dernier devrait être une version modifiée du vaisseau Starship en cours de développement par l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Or, les deux premiers vols de Starship montés sur son propulseur Super Heavy se sont soldés en 2023 par des explosions. Pour atteindre la Lune, Starship devrait par ailleurs être retravaillé en carburant en vol, une opération risquée et pas encore testée. Enfin, des combinaisons spatiales adaptées à l'environnement lunaire seront aussi nécessaires. Leur développement a été confié à Axiom Space et Collins Aerospace.
Voici ce qui se passe en France. L'INSEE a fixé ses critères concernant la pauvreté en France et a estimé que 14,5% de Français sont pauvres. Les personnes considérées comme pauvres sont celles qui vivent avec moins de 60% du revenu médian. En France, 50% perçoivent plus que le revenu médian et 50% moins. Le revenu médian est fixé à 1 930 € mensuels. Ainsi sont considérés comme pauvres ceux touchant moins de 1 158 € par mois. Concernant une famille monoparentale avec un enfant, le seuil passe à moins de 1 505 € par mois. Pour un couple sans enfant, il s'agit de gagner moins de 1 737 €. Enfin, pour un couple avec deux enfants, le seuil se trouve à moins de 2 432 € mensuels. La pauvreté se mesure aussi en privation. En effet, lorsque nous sommes pauvres et considérés comme tels, nombreuses sont les privations auxquelles nous devons faire face. L'INSEE établit également un indicateur, le taux de privation matérielle et sociale, comprenant 13 renoncements, jaugeant l'impact du coût de la vie sur le quotidien des Français. Ainsi, nous trouvons ne plus payer à temps le loyer, l'emprunt hypothécaire, les charges du logement ou les crédits à la consommation, ne pas se chauffer correctement, ne pas être en mesure de faire face à une dépense inattendue de 1000 euros, ne pas manger de protéines tous les deux jours, ne pas partir une semaine en vacances une fois par an, ne pas pouvoir remplacer des meubles usés ou dégradés, ne pas posséder de voiture, n'avoir qu'une seule paire de chaussures, ne plus pouvoir remplacer des vêtements usés par des neufs, ne pas sortir avec des amis pour dîner ou boire un verre au moins une fois par mois, renoncer aux activités de loisirs, ne pas dépenser pour soi une petite somme d'argent chaque semaine, ne pas avoir un accès personnel à Internet chez soi. Les ménages qui cumulent 5 ou plus de ces privations sont considérés comme pauvres en conditions de vie. Beaucoup sont concernés.
Le taux de chômage de la zone euro a baissé de 0,1 point en novembre par rapport à octobre, à 6,4% de la population active. Son plus bas niveau historique, malgré une conjoncture économique morose, selon des données publiées mardi par Eurostat. L'indicateur s'est établi au niveau le plus bas depuis l'Office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998 pour les pays ayant adopté la monnaie unique européenne. En glissement annuel, le taux de chômage a baissé de 0,2 points en novembre. Ces chiffres montrent une résistance du marché de l'emploi face au recul de la croissance enregistré l'an dernier. La zone euro a vu ses économies se contracter au troisième trimestre, plombée par les difficultés de l'Allemagne et la remontée des taux d'intérêt. De nombreux analystes établent sur une nouvelle base de produit intérieur brut en PIB sur les trois derniers mois de l'année, synonyme de récession technique. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de personnes sans emploi s'est élevé à 5,9% en novembre, également en baisse de 0,1 point sur un mois et de 0,2 point sur un an. Le chômage a nettement baissé en Europe depuis la mi-2021 grâce à la forte reprise économique post-Covid qui a succédé à une récession historique. Malgré une stagnation de l'activité économique dans la zone euro à partir de fin 2022, alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine et la flambée de l'inflation, il a poursuivi son recul avant de se stabiliser depuis le printemps à un niveau inédit en un quart de siècle. Quelque 12,95 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage en novembre au sein des 27 États membres de l'UE, dont 10,97 millions parmi les 25 pays partageant la monnaie unique. Le taux de chômage s'établit à 7,3% en France, comme en octobre et en septembre, contre 30,1% en Allemagne. Selon les données harmoniques d'Eurostat, les taux les plus faibles de l'UE ont été enregistrés en République tchèque, 2,4%, à Malte, à 2,5%, en Pologne, à 2,8%. Les plus élevés ont été relevés en Espagne, 11,9%, et en Grèce, 9,4%. Les jeunes en moins de 25 ans restent bien davantage touché que l'ensemble de la population, avec un taux de chômage de 14,5% dans l'ensemble de l'UE, comme dans la zone euro. Ce chiffre a cependant baissé de 0,3 points par rapport à octobre.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter le podcast ainsi que les précédents sur radiocampuspo.fr et vous pouvez suivre Radio Campus Po et Campus Mag sur Instagram. Bonne soirée à tous.